Tu cherches des problèmes?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à la Clairoie. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
Bonsoir à tous, vous êtes branchés sur le 102.2 d'une radio belle et rebelle, puisque c'est Radio Kenu. Et c'est l'émission Angle Mort qui débute, comme tout, donc les dimanches de 21h à 22h. Une émission de critique et d'expérimentation sociale. Avec au menu de ce soir, eh bien, je laisse la parole à Natacha, puisque c'est elle qui va s'occuper de notre première partie de l'émission.
Oui, et bien en début d'émission, on évoquera un documentaire qui s'appelle Albert Romeo, mon arbre, et qui m'a beaucoup plu.
Ok.
J'en dis pas beaucoup. Hein.
Non, mais c'est faut pas. Voilà, c'est bien comme ça. Et puis, ben moi, en deuxième partie d'émission, je parlerai de ce qu'on a coutume d'appeler les bobos. Enfin, je vais pas parler des bobos eux-mêmes, en fait, je vais parler de la catégorie de bobos et faire une critique de cette catégorie, appelée à, en fait, à un abandon de ce terme qu'on utilise fréquemment et qui ne veut rien dire. Enfin, on a l'impression de savoir ce que ça veut dire, et, mais en fait, ça nous dessert beaucoup quand on est un peu anticapitaliste, alternatif, tout ça. Voilà, donc ça sera le propos de la deuxième partie de l'émission. Et puis, bah, notre habitude, on va commencer par un titre musical, histoire de finir de nous installer, tout ça. Donc, on va commencer par quelque chose. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout choisi quoi, et que du coup, c'est pas calé. Ça va sans doute, je vais mettre ZX, allez, avec 24 Problems sur Radio Canu, émission Angle Mort.
Grande mise en parenthèse, je n'y peux pas grand chose. Si nous ne sommes pas en phase, voici mes papiers, relevez mon adresse et mon blaze. Et arrêtez de me palper à la moindre occasion, car à la base, ma peau n'est pas douée pour la métamorphose.
Je cherche l'angle mort.
Je learned and got rid of his uniform. He was used to saying yes when everyone said no. Well, what are people used to pay for 24 crucial mistakes? Trouble of a high degree was all that he could sell. What's my shoe? 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 What's my shoe
périphérie des gens.
Toujours à l'écoute de l'émission Angle Mort sur Radio Canu. C'était à l'instant The X, le groupe hollandais, si je ne m'abuse, avec la chanson 24 Problems, qui était un petit peu longue pour une chanson d'introduction. Mais nous voilà de retour et je donne tout de suite la parole à mon acolyte pour une présentation qui promet de... Oula.
Décoiffer.
Voilà.
Donc c'est moi l'acolyte alors.
Tu es l'acolyte.
Voilà. Oui, donc comme on l'évoquait en introduction de cette émission, donc je vais vous présenter un documentaire qui m'a bien plu. Alors je dis documentaire, mais en fait...
Ah.
Attention, c'est pas exactement un documentaire puisque on appelle ça un web documentaire.
Ah d'accord.
Voilà, c'est pas tout à fait pareil en fait. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est qu'un web documentaire ou web doc ? Et nous apprendrons alors grâce à Wikipédia que le web documentaire est un documentaire conçu pour être d'abord diffusé sur Internet en associant texte, photo, vidéo, son et animation de manière interactive. En gros, bon, bah, c'est un documentaire qui propose une navigation, un récit non linéaire. On peut cliquer.
Avec des liens hypertextes.
Voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà pour la présentation de ce qu'est un web documentaire.
Et c'était Angle Mort, donc à la semaine prochaine.
Donc oui, donc présenter donc ce documentaire, on va l'appeler comme ça, que j'avais trouvé rudement bien, qui s'appelle Albert Romeo, mon arbre, et qui met en scène, enfin dans lequel une fratrie. Composé de trois membres, Brune l'aînée qui a 32 ans, Pablo le suivant à 29 ans et le cadet Pierrot à 23 ans. Et donc une fratrie qui a deux mamans, Maria et Mimi, et qui racontent leur histoire, leur famille, questionnent leur identité au pluriel, sociale, culturelle, sexuelle, s'interrogent sur ce qui fait, sur ce qui définit la famille, sur ce qu'est être un homme, être une femme. Aborde aussi les questions d'orientation sexuelle, d'homophobie, etc., etc., et plein d'autres choses encore. Mais pour vous présenter plus précisément ce web documentaire, je vais reprendre la description qu'en font les concepteurs du projet, donc les trois frères et sœurs, Brune, Pablo et Pierrot, une présentation qu'on peut trouver sur Internet. Alors... La lecture commence de cette présentation, pardon. Et les enfants des homosexuels, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Automne 2012, le gouvernement présente un projet de loi sur le mariage pour tous. Le débat passionnel qui s'ensuit dans les médias, dans la rue et dans l'hémicycle semble être agité essentiellement par cette seule et unique question. Les homosexuels peuvent-ils être des parents comme les autres ? Les homos ont-ils le droit de procréer et d'élever des enfants ? Pour Brune, Pablo et Pierrot, une fratrie âgée de 23 à 32 ans, élevée par deux mamans, la question ne s'était pas vraiment posée de cette manière-là. Pour eux, deux mamans, c'était la réalité de leur vie, pas un objet de débat. Affublés de l'étiquette entre guillemets « enfants d'homo » qu'ils n'avaient jusqu'alors jamais revendiqué, ils ont découvert avec étonnement être l'objet de fantasmes et de peurs, mais aussi porte-parole potentielle en mesure de rassurer sur la normalité de la progéniture des couples de même sexe. Alors c'est d'ailleurs, là moi je fais une parenthèse, c'est d'ailleurs ce dont va témoigner Pablo, donc le deuxième de la fratrie, qui va se trouver invité à l'Assemblée nationale devant la commission des lois, la commission des lois a appelé à préparer un rapport sur le projet de loi sur le mariage pour tous et il est donc invité à témoigner devant cette commission. On peut d'ailleurs voir en ligne donc sur le web documentaire la vidéo de son intervention. Parmi d'autres d'ailleurs, dans une des rubriques du web documentaire. Elle est assez intéressante, son témoignage est assez intéressant, parce qu'il y dit, j'ai trouvé beaucoup de justesse, comment les arguments des comment les anti-mariages pour tous, s'auto-proclamant défenseurs de l'enfance en danger, et du coup centrant leur argument sur l'enfant et son bien-être, se cachent derrière justement justement ces arguments-là pour ne pas dire directement le problème que l'homosexualité leur pose. Pablo, de dire combien finalement il se soucie bien peu du bien-être des enfants, puisque s'il s'en souciait vraiment, travailler à leur bien-être serait justement de ne pas dénier à leurs parents, à ceux qui les élèvent, le droit d'exister, d'avoir les mêmes droits que les autres parents, etc. etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc là, moi, je finis ma petite parenthèse et je poursuis la description du documentaire par les protagonistes. Alors, qu'ils se retrouvaient aussi porte-parole potentielle en mesure de rassurer sur la normalité de la progéniture des couples de même sexe. Que faire alors de cette identité posée par le regard extérieur ? Entre identité subie ou revendiquée, quelle position adopter ? Pour Brune, Pablo et Pierrot, cette interrogation en a rapidement amené d'autres. À quel point est-ce le regard extérieur qui nous impose une identité ? À quel moment l'identité devient une catégorie qui enferme ? Pourquoi faut-il constamment prouver sa normalité quand le regard extérieur vous classe dans une identité minoritaire ? Que veut dire normalité ? Orientation sexuelle, genre, famille, origine, discrimination, ce sont toutes ces notions que Brune, Pablo et Pierrot décident d'aller explorer pour décomposer la notion d'identité. À partir de leur expérience vécue, ils vont interroger des proches, des intellectuels ou des politiques sur ces étiquettes multiples. Albert Roumio, c'est leur arbre, un arbre généalogique, mais aussi un arbre à palabres.
Ben moi je m'appelle Pablo, Pablo Seban, j'ai 30 ans. J'habite à Toulouse depuis 7 ans. C'est une chouette ville. J'habite juste derrière la gare, dans un petit appartement avec un grand jardin, avec ma copine. Je suis éducateur populaire. C'est un drôle de métier, mais on essaye de faire en sorte que les gens aient des espaces pour réfléchir, pour agir sur leur quotidien, pour réfléchir sur leur vie et pour transformer leur quotidien. Donc c'est un boulot qui est très politique, très intéressant. Ma famille, j'ai un frère qui a 27 ans, une sœur qui en a 32, non pas 27, mon frère il a 23 ans, une sœur qui en a 32, j'ai deux mamans, maman et Mimi, et j'ai un papa qui habite en Italie. Un ouvrier dans l'âme. Et puis il y a Jackie, qui est une amie de ma mère.
Quand même, grâce à ça.
Une amie du lycée, et qui a participé. C'est elle qui m'a amené en Bolivie, par exemple, quand j'étais en seconde. Elle m'a fait me faire mon premier grand voyage. Et donc elle fait partie de la famille. Et puis j'ai une autre famille qui est beaucoup plus loin, de cousins éloignés, juifs pour la plupart, un peu partout dans le monde, mais que je connaîtrai pas. Enfant d'homo, c'est une identité aujourd'hui. Pour moi, enfin, c'est quelque chose qui me. Par exemple, c'est quelque chose qui construit une partie de mon quotidien, puisque je réponds à des journalistes, je décide avec mon frère et ma sœur de faire un web documentaire pour raconter des choses, pour travailler des choses, mais c'est nouveau pour moi que c'est une identité.
Oui, par exemple, quand est-ce que ma papa m'a expliqué qu'est-ce que c'était la gauche et qu'est-ce que c'était la droite ?
Oui, mais ça c'est ton. C'est
oui,
ton
et puis histoire. Nos histoires à nous, parce que là il y a les histoires de maman et Mimi, mais il n'y a pas nos histoires à nous. Par contre, c'est une identité qui correspond très très peu à la façon dont on se le représente médiatiquement. Je pense qu'on a peu de choses en commun, nous les enfants d'homo. Je pense que ce qu'on a en commun, c'est le fait qu'en ce moment, par exemple, on soit sous le feu des projecteurs. C'est une identité qui est construite de l'extérieur, ça c'est vrai. Mais en fait, les identités, la plupart, sont construites de l'intérieur, de l'extérieur.
On va très bien, on vous répète, c'est gentil de vous inquiéter pour nous, mais on va très bien, mais arrêtez de parler à notre place.
En fait, il y a des identités qu'on peut se donner. Moi, j'ai vachement travaillé sur la question avec des femmes musulmanes qui portent le voile. Porter le voile en France, c'est une identité extrêmement marquée, extrêmement forte. Elle t'interdit de travailler, quasiment. Il n'y a aucun, à part femme de ménage, nounou, et encore. Et certaines entreprises qui acceptent dans des bureaux, mais 90% des emplois te sont refusés. Elle te rend difficile le fait de faire des études, etc. Mais c'est une identité, contrairement à noir, que tu peux acquérir sur le tard. Ou que tu peux acquérir malgré ta couleur de peau. Mais par exemple, le genre est quelque chose qu'on peut performer. Performer, ça veut dire changer son identité par un acte volontaire. Par exemple, les trans, il y a des trans qui arrivent à aller suffisamment loin dans leur changement de sexe pour faire en sorte d'être, c'était des hommes dans leur enfance, d'être perçus comme femmes, y compris par tout le monde, parce qu'il y a une performation de leur genre forte qui fait que les gens voient des femmes. Et donc voilà, t'as des identités choisies, des identités subies, des identités que tu peux performer, que tu peux changer, et des identités que tu peux pas changer. Je revendique l'identité d'enfant d'homo parce que ça me permet d'aller bousculer les poncifs, les façons dont on pense les identités, la façon dont on construit le racisme et l'homophobie, quoi.
De Radio Canu, émission Angle Mort, et c'était à l'instant Leftover Crack avec le titre Gay Rude Boys Unite.
Et juste avant, on avait entendu donc un extrait du documentaire qu'on présentait, Albert Romeo, Mon Arbre, donc un extrait intitulé Enfant d'Homo, une nouvelle identité, point d'interrogation, dans lequel Pablo, l'un des membres de la fratrie, se présente, on l'a entendu, présente sa famille dans une version assez élargie en plus, et s'interroge sur ce qui signifie être enfant d'Homo. Voilà. Alors le documentaire, ouais, il est assez intéressant. Alors ce serait difficile de le décrire dans tous ses aspects. On vous engage à aller le voir. Enfin, on vous invite plutôt. Donc vraiment intéressant et bien fait. Moi, ce qui m'a bien plu, c'est la démarche de recherche, tout en questionnement des protagonistes. Donc la façon, vraiment, voilà, ils ont des interrogations, ils se questionnent sur c'est quoi l'identité, qu'est-ce qui fait la famille, etc. Et ils vont proposer proposer d'aborder ces questions de façon, enfin, d'identité sexuelle, d'orientation sexuelle, de famille, de façon non normative, à travers aussi des interviews avec des proches, des amis, des politiques aussi, des intellectuels, on le disait tout à l'heure. Il y a aussi, j'ai trouvé certaines interviews vraiment émouvantes. C'est vrai que l'aspect sensible est pas inintéressant non plus pour pouvoir aborder ces questions-là. Je pense notamment à celui, enfin, l'interview du papa des enfants, Gilberto, qui est ouvrier, qui est peut-être à la retraite, ceci dit, et qui vit en Italie. Et ou encore celui de Mimi. Donc Mimi, c'est la deuxième maman. Celle qui n'est pas la mère en fait biologique des enfants. Donc ces deux interviews là étaient vraiment vraiment assez émouvantes. Et puis plus globalement, donc c'est un documentaire résolument militant et politique qui s'intéresse à questionner, dévoiler des situations d'inégalité, de domination. Et finalement, l'histoire familiale de Brune, Pablo et Pierrot leur donne en fait l'occasion d'ouvrir plein de tiroirs. Pablo, dans l'entretien, enfin dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, le disait finalement, pour réfléchir aussi à d'autres questions sociales et politiques, et à faire des parallèles aussi avec d'autres formes de domination, d'autres discriminations que celles que vivent les homosexuels ou les couples homosexuels. Il est par ailleurs aussi question de racisme, d'islamophobie, de féminisme, de questions de genre, etc., etc. Donc on a plein de tiroirs qu'on peut ouvrir en fonction de ce qui nous intéresse. Et franchement, le tout c'est vraiment intéressant. On va d'ailleurs, pour illustrer l'aspect militant et politique, et puis le fait que d'autres questions aussi sociales soient traitées dans ce documentaire, on va entendre un interview que Pierrot, donc le cadet de la famille, réalise avec Pierre Thévagnan à propos de son ouvrage La mécanique raciste. Il y a des ponts qui sont faits entre la logique raciste et puis la mécanique homophobe aussi. Vous allez l'entendre. Pierre Thévagnan, en deux mots, c'est, alors je crois que c'est un professeur de philosophie, c'est ça, hein,
je crois, ouais.
Il est notamment connu pour être avec la sociologue Sylvie Tissot à l'origine du
blog, c'est ça, les mots sont importants, dont on...
Ouais, du collectif Les mots sont importants, dont on a souvent l'occasion de présenter des articles. Voilà, Eric d'ailleurs présentera tout à l'heure.
Oui, ça sera un article de Sylvie Tissot.
On reste cohérent, voilà. sur nos références. Voilà, donc on va entendre Pierrot qui interview Pierre Thévagnan sur la mécanique raciste.
Un livre qui s'appelle La mécanique raciste. Ça, c'est quelque chose qui vaut pour ce qu'on appelle le racisme, donc au sens assez strict, mais ça vaut aussi pour les autres types de discrimination.
Il y a beaucoup d'analogies qui sont possibles, à mon avis, parce qu'effectivement, à chaque fois, on a une discrimination qui se fonde sur pas grand-chose, mais qui ensuite, à partir de ce pas grand-chose, construit tout un système. Je l'ai un peu résumé pour le racisme en disant qu'il y avait... sur le plan, on va dire, mental, quatre opérations, et à mon avis, ça serait les mêmes pour le sexisme et pour l'homophobie, par exemple. J'ai appelé ça essentialisation, différenciation, infériorisation ou péjoration, et inégalité de traitement. La première opération de la pensée raciste, c'est que c'est tous les mêmes, c'est que voilà, les homos, comme dans l'homophobie, les femmes, les juifs. Donc c'est le passage au pluriel. Après, donc, différenciation ou altérisation ou radicalisation, c'est que non seulement c'est tous le même, mais ils ne sont pas comme nous. Infériorisation, nous valons mieux qu'eux. Si on devait le résumer par un sentiment, j'ai appelé ça le mépris, plutôt que la haine. Parce que justement la haine, ça serait la forme particulière et relativement rare finalement que prend le racisme ou que prend le sexisme ou que prend l'homophobie lorsque l'autre en face ne se laisse pas trop faire, quoi. J'insiste souvent sur le fait qu'il faut absolument la quatrième caractéristique pour être vraiment dans quelque chose qui s'appelle du racisme ou du sexisme ou de l'homophobie. il faut qu'il y ait un rapport de domination. C'est lorsque c'est le dominant qu'il exerce à l'égard des dominés pour justifier un ordre social dans lequel objectivement on peut effectivement voir qu'il y a une inégalité de traitement.
Tu as créé un collectif, une personne qui s'appelle les mots sont importants. Justement, et donc j'aimerais parler de cette question du langage et des mots qui sont employés et qui sont un peu les mêmes, qui sont employés à la fois dans les discours sexistes, racistes, etc. L'idée, donc le terme de communautarisme, par exemple.
Si on définit le communautarisme comme un entre-soi qui s'accompagnerait d'un fallacieux sentiment de supériorité et d'une attitude méprisante et hostile aux autres, ce qui devrait être défini comme et dénoncé comme communautariste, ça serait justement la monopolisation des places de pouvoir politique ou économique par des hommes blancs hétérosexuels de classe supérieure, parce que là on a des tonnes de statistiques qui nous le démontrent, ou bien ça serait la monopolisation justement du droit à la parentalité par des familles hétérosexuelles. Et bizarrement, c'est jamais à propos de ces groupes-là qu'on emploie le mot communautarisme, mais plutôt contre les groupes minoritaires lorsqu'ils contestent cette inégalité, cette domination, ces privilèges, et qu'ils revendiquent l'égalité. Et donc, bizarrement, on court jamais autant le risque de se faire traiter de communautariste que lorsque on se bat pour, justement, absolument pas se différencier, se séparer des autres, mais rejoindre la communauté globale dans des espaces sociaux, des lieux, donc par exemple de pouvoir, ou dans des droits, comme le droit au mariage et à la parentalité, qui sont les espaces, les lieux, les droits de tous. Par exemple, une femme voilée, une fille voilée, de pouvoir aller à l'école publique, la même que tout le monde. Et c'est ça, bizarrement, qu'on traite comme de la sécession et du repli communautaire.
Il y a une autre réaction à partir du moment où le discours de la contestation commence à avoir une réelle présence, c'est de dire on ne peut plus rien dire.
Ces gens ont cette revendication un petit peu... comment dire, d'enfant gâté, de revendiquer le droit de tenir des propos racistes ou donc islamophobes notamment, ou homophobes, ou sexistes d'ailleurs, on entend le même genre de discours sur le sexisme, donc non seulement de les tenir, d'avoir cette liberté d'expression là, mais d'avoir une liberté d'expression particulière, parce que d'avoir le monopole de la liberté d'expression. Il se pose en victime d'une espèce de tyrannie du politiquement correct et de la pensée unique qui leur interdirait de dire ce qu'ils disent partout et tout le temps. Je reviens à mon exemple de la loi sur le voile. Autant être viré de l'école pour un foulard, c'est vraiment être victime de quelque chose de sérieux. Autant, dans cette histoire... s'il y a eu victimisation au sens de s'inventer un statut de victime qu'on n'a pas, et de dominer qu'on n'a pas, et de persécuter qu'on n'a pas, c'était du côté des gens, des pro-lois. Parce que toute la loi nous a été vendue comme une loi pour venir au secours de ces pauvres profs en détresse qui sont victimes de quoi ? Du fait que dans leur classe, il y a une ou deux ou trois filles qui portent un foulard. Et Manif pour tous, il n'y a pas besoin de faire un dessin aussi. Tout l'argumentaire de la manif pour tous, c'était de poser les hétéros, le couple hétéro, la famille hétérosexuelle, comme des victimes. On est menacé. Par quoi ? On ne sait pas. Elle nous l'a dit, Frigide Barjot, je pourrais plus, on m'enlève mon sexe. Enfin, c'était voilà, on arrivait à des discours tout aussi délirants, mais il fallait inventer quelque chose pour pouvoir se penser comme victime, alors qu'on était simplement en train de perdre un privilège.
Circuit. Au croisement des contraires,
au carrefour des massacres,
au point d'impact des colères,
à contre-courant vert,
et contre toutes les muselières,
à la périphérie des champs, au cœur des...
Voilà, donc on vient d'entendre Pierre Thévagnan interviewé par Pierrot dans le documentaire, le web documentaire Albert Omio, que nous qu'on vous incite à aller découvrir sur internet. Voilà, parce que bon là on a une illustration de ce qu'on peut y trouver. Il y a plein d'autres choses. Il y a plein de petites vidéos, d'interviews, il y a aussi une cabane à outils avec une bibliographie et une filmographie qui ont l'air fort intéressantes. Un abécédaire aussi pour s'y retrouver dans le langage, dans les mots. Une rubrique intitulée Vos histoires où d'autres personnes vont témoigner sur leur expérience vécue de d'enfants, d'homosexuels et pas que. Voilà, donc c'est aussi un outil support, à mon avis, assez formidable pour des ateliers sur des discussions avec, je sais pas, des jeunes, des enfants sur ces questions de l'identité sexuelle, de l'orientation sexuelle, de ce qu'est être parent, de ce qui fait la famille, etc., etc. Voilà, je me rendais compte que je ne me rappelais plus de l'adresse exacte du site sur lequel on peut retrouver ce web documentaire, mais je pense qu'en tapant Albé Romeo, donc
Albé.
Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit?
Albé-R.
Heureusement que tu suis, Eric, c'est bien. Alors, merci. Je recommence, ça bug. Donc, Albé Romeo, Albé-Romio.
Voilà,
en tapant Albé Romeo. Mon arbre, si vous voulez aller au bout du titre, sur un moteur de recherche, on devrait retomber dessus. Et puis sinon, nous, on fera le lien sur le blog de l'émission.
Sur notre émission, sur notre blog, qu'on peut trouver sur le site Radio Canu et l'onglet blog des émissions.
Voilà, moi j'ai fini.
Ok, bah moi je vais poursuivre donc avec petite réflexion, pas particulièrement personnelle, hein, parce que je m'appuie sur plusieurs auteurs, sur la question de la catégorie ou du terme de bobo. Bobo, c'est les bourgeois bohèmes. Et donc voilà, en gros, en guise d'introduction, ce qu'on peut rappeler, c'est que le monde social est traversé de divisions qui sont plus ou moins réelles, plus ou moins fondées dans des vraies différences ou des vraies hiérarchies entre des groupes sociaux qui eux-mêmes vont être relativement homogènes, ou divisions qui vont être plus ou moins imaginées. Et en tant qu'individu qui nous déplaçons dans ce monde social, on applique des catégories de classification de ces groupes. On peut parler aussi de schèmes de pensée, c'est-à-dire qu'on va distinguer, ouvriers, paysans, etc. On va se classer les uns les autres, souvent en pratique dans les situations, selon nos origines sociales, etc. Et ces catégories de classification vont donc du coup être relativement efficaces politiquement. C'est-à-dire que c'est des catégories qui vont diriger nos perceptions des uns et des autres, des comportements qu'on va avoir à leur égard, nos visions politiques aussi. Et donc on peut diviser le monde de plusieurs façons. On peut opposer par exemple riches, pauvres, nationaux, étrangers, prolétaires, propriétaires, et aussi avoir des catégories plus ou moins fines, etc. Et ces catégories vont pas être sans conséquence donc sur nos manières d'agir politiquement, puisqu'elles vont diriger avec qui on va se sentir solidaire, avec qui on va éventuellement se sentir proche, avec qui par exemple on va déléguer la production de notre propre opinion sur divers sujets, et inversement, de qui on va vouloir se distinguer, etc. Et une de ces catégories de pensée, le monde social, qui est très diffuse aujourd'hui et qui nous semble devoir être abandonnée lorsqu'on se dit anticapitaliste, est la catégorie donc de, je disais, bobo. Donc là déjà, c'est un agacement que je commençais à avoir autour de cette catégorie, qui est venu au départ de la lecture d'un texte qui s'appelait « Bobos et travailleurs pauvres, petits arrangements de la presse avec le monde social », texte de Xavier Delaporte, qui avait été publié dans un livre qui s'appelait « La France invisible », publié en 2006, qui était co-dirigé par Stéphane Beau, Joseph Confavreux et Jed Lingard. Et ce texte était intéressant, hein, il faisait un peu d'histoire, il commence par un petit peu d'histoire, il rappelle que c'est en 2000 que David Brooks, qui est un journaliste américain, rédacteur en chef du Weekly Standard, éditorialiste à Newsweek, donc en 2000, il publie un livre intitulé « Bobo in Paradise ». Et donc les bobos sont, selon lui, des bourgeois bohèmes qui, je cite, « ont suivi des études supérieures et qui ont un pied dans le monde de la bohème, de la créativité, et un autre dans le royaume bourgeois de l'ambition et de la réussite matérielle ». Donc déjà, rappelons que c'est un livre pas très sérieux, c'est pas une étude sociologique, on va dire, il y a très peu de statistiques, pas de théorie du tout, mais c'est un livre qui a fait une entrée fracassante dans l'espace médiatique français très rapidement. Donc on en parle, que ce soit dans la rubrique Tendance, Mode de Vie de Libération, dans Elle, dans Le Parisien, etc. Le livre est aussi très rapidement traduit en français. Et dès 2001, la catégorie devient en fait une catégorie politique, une catégorie utilisée par certains journalistes ou même par quelques chercheurs pour par exemple analyser des phénomènes électoraux. Et d'abord, c'est pour qualifier souvent la nouvelle bourgeoisie dite de gauche qui s'installe dans les quartiers populaires de l'Est parisien. Et donc effectivement le terme bobo au départ peut s'appuyer sur une forme de légitimité scientifique qui renvoie surtout au thème de la gentrification. Donc c'est cette idée que des personnes avec un niveau de diplôme relativement élevé, qui sont plutôt aisées, vont réinvestir les centres-villes traditionnellement populaires, voilà, et en exclure du coup ceux qui habitaient ici. On parle de gentrification. Et donc c'est le terme bobo au départ est lié à ce type d'analyse. Mais il va progressivement, enfin rapidement en fait, pas progressivement, s'imposer dans le langage commun et devenir une évidence pour un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, bobo, on aurait souvent du mal à le définir, mais on sait qu'il y a des bobos, hein, on le sait bien. Et bon, une des raisons du succès, c'est que effectivement, ça va paraître familier à beaucoup de gens, dont notamment ceux qui accèdent aux médias, c'est notamment les journalistes qui ont porté cette catégorie au départ. Sans doute aussi, on pourrait voir une raison du succès dans le fait qu'en rapprochant le terme de bourgeois au terme de bohème, on renouvelle cette idée reçue que les anciens 68ards se sont massivement convertis au néolibéralisme, etc. Ce qui est une idée reçue, enfin, c'est pas le cas du tout de tous les militants de 68. Quelque chose peut-être de plus fondé autour de derrière ce terme, c'est la critique d'une gauche bien pensante qui a effectivement trahi. C'est associé souvent au thème de la gauche caviar. Mais ici, la différence, c'est que ça va plutôt s'adresser aux responsables politiques qu'aux électeurs qui vont être accusés d'associer goût pour les modes, haut niveau de revenus et une bonne conscience de gauche. Et Xavier Delaporte, donc, dans le petit texte que j'ai cité, évoque aussi un mécanisme d'autodérision des journalistes pour expliquer le succès de la catégorie. Ils savent que ça parle d'eux, en fait, mais ça les fait marrer, et voilà. Bon, le problème de ce terme, c'est que c'est une illusion efficace qui a pour fonction de jeter un discrédit sur tout ce qui peut se faire d'alternatif à partir d'un moment. Donc là, je cite Xavier Delaporte, on trouve souvent un usage conservateur qui disqualifie d'emblée toute une série de velléités écologiques, sociales, etc., immédiatement considérées comme naïves, un peu affectées et de mauvaise foi. Donc au fond, bobo, ça ne veut rien dire, on ne sait pas trop, c'est une catégorie très floue. Ça va regrouper au nom d'un comportement culturel présumé analogue, des catégories qui au fond sont très différentes, voire opposées du point de vue par exemple des revenus, de la position dans la division sociale du travail, des pratiques politiques, etc. Par contre, quel est l'effet? C'est que tout ce qui ne va pas être conforme au bon sens, va devenir imputable à un être profond de bobo, et donc significatif d'une naïveté. Et ça, c'est des stéréotypes qui se sont ancrés très rapidement, je trouve, parce qu'on a tous l'impression de connaître quelqu'un, effectivement, dont les engagements seraient peu authentiques, momentanés, etc. Donc on a tous cette image de quelqu'un qui, effectivement, oui, lui, il est bobo. Mais on devrait faire attention, je pense, en tant qu'anticapitaliste, et faire la part des choses. Et donc, notamment parce que l'usage de cette catégorie a un effet aussi d'invisibiliser la bourgeoisie non bohème, hein, qui, n'a aucun cas de conscience à défendre ses intérêts de classe et du coup passe à la trappe de la critique, on va dire, avec cette diffusion du terme bobo. Voilà, et donc dans cette optique, moi je voulais lire donc effectivement un texte de Sylvie Tissot qui résume très bien, un texte plus récent, qui résume très bien ce qui m'agaçait dans ce terme, et le dira beaucoup mieux que moi. Donc on va faire une petite pause musicale et on finira l'émission sur ce texte. Donc vous écoutez toujours Radio Canu, émission Angle Mort. I'm
Oula, pardon pour le raccord qui était un peu raté. Donc c'était les Pogs, n'est-ce pas Eric ?
C'était exactement ça. Et donc je commence la lecture de ce texte Tribune de Sylvie Tissot, sociologue à l'université de Paris 8, qui a été publié dans l'Humanité le 21 juin 2013, si je ne me trompe pas, et qui s'appelle « Une vision pernicieuse du monde social et de ses divisions ». Rien n'est mieux partagé que le discours anti-bobo. L'ironie ou l'agressivité peuvent varier, mais chacun a un jour, d'un air entendu, utilisé ce mot pour parler d'un quartier, d'un restaurant, d'idées politiques, de modes vestimentaires ou de pratiques alimentaires. Nul besoin d'expliquer le terme, les bobos, c'est les autres. Et pour certains, le nouveau repoussoir, l'incarnation d'un progressisme hypocrite, d'une branchitude désinvolte et indifférente aux vrais problèmes. Du point de vue des sciences sociales, le mot « bobo » peut sembler utile pour décrire la manière dont se sont transformés les quartiers populaires des grandes villes. Le bobo serait ce nouvel habitant relativement doté, au moins en bagage scolaire, en quête d'architecture ancienne ou d'un loft à rénover pour y bricoler un mode de vie bohème tout en veillant à augmenter la valeur de son bien. Le bobo serait responsable de ce que les chercheuses et chercheurs nomment maintenant la gentrification, c'est-à-dire la requalification de quartiers anciens, dont le prix de l'immobilier explose à la suite de l'arrivée des classes moyennes. Le phénomène de la gentrification, mais bien au-delà l'absence d'un réel contrôle du marché de l'immobilier, est assurément préoccupant. Les difficultés d'accès au logement et la colonisation des espaces populaires sont une manifestation criante des inégalités renforcées par la crise économique et les politiques d'austérité. Quand les classes supérieures savent protéger leur entre-soi dans des communes et des quartiers de plus en plus bourgeois, les classes moyennes les moins dotées, notamment en patrimoine hérité, peinent à trouver un logement dans les grandes agglomérations. Et face à un parc social saturé, des zones insalubres se reconstituent aujourd'hui dans les interstices des villes, où se retrouvent ceux qui ont encore moins de ressources. Le mot « bobo » pourtant ne nous aidera ni à comprendre ces transformations, ni à les stopper. Et la plupart des chercheurs et chercheuses rechignent d'ailleurs à les utiliser. Derrière cette catégorie se cachent des profils sociaux très contrastés, qui, dans tous les cas, n'ont rien à voir avec la bourgeoisie non-bohème qui sait défendre ses privilèges sans avoir à se mêler aux pauvres. Cela n'exonère en rien les nouveaux habitants des quartiers populaires de la responsabilité de s'interroger sur leurs goûts, leurs pratiques, leur manière d'investir l'espace public, les écoles ou encore le milieu associatif. Car leur bonne volonté et leur goût affiché d'une certaine mixité sociale ne réduisent pas magiquement les inégalités ni la violence symbolique que peuvent éprouver les habitants déjà là. Il reste que, comme le mot lui-même, la construction du bobo comme nouvel ennemi est problématique. Non pas parce que ces populations seraient injustement stigmatisées. S'il y a un groupe rituellement montré du doigt pour son mode de vie, ses goûts culturels ou encore son vote, ce sont encore avant tout les classes populaires, en particulier musulmanes ou issues de l'immigration. Le premier problème réside dans le fait que cette rhétorique s'est développée au sein d'une classe politique qui, au niveau gouvernemental comme dans les municipalités, dans celle de droite comme dans celle de gauche, est très massivement issue des classes supérieures et accueille souvent à bras ouverts ces populations plus riches. Si le discours anti-bobo est dangereux, c'est aussi que ce discours a pris place dans une vision particulièrement pernicieuse du monde social et de ses divisions. Arrivé au début des années 2000 en France, à la suite de la traduction du livre du journaliste états-unien David Brooks, le mot a été repris par l'ensemble des médias, puis de la classe politique. Lors de la campagne de 2012, il était même brandi par Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, qui fustigeaient les bobos pour mieux se réclamer des classes populaires. Car c'est là que réside l'effet magique du mot. Quel que soit son flou, d'ailleurs soigneusement entretenu, il permet de convoquer des classes populaires aussi authentiques entre guillemets que les bobos seraient faux et d'afficher, à peu de frais, une solidarité sans faille avec celles-ci. Il permet aussi, en creux, d'en dessiner des contours bien particuliers. Autant les bobos seraient attachés à la défense des sans-papiers, par exemple, autant les classes populaires y seraient hostiles. Face au premier, porté vers la culture et la tolérance sociale, émerge de cette nouvelle doxa un peuple soudainement élagué de ses composantes qui, pourtant, subissent de plein fouet la violence sociale et économique. Les immigrés occupant les postes les moins payés, ou encore les femmes aux avant-postes de la précarité, mais aussi les gays et les lesbiennes, qui ne sont pas tous des créateurs habitant le marais. Il convient de réfléchir aux effets idéologiques de 10 ans de captation d'un terme utilisé au départ par des journalistes en quête de sujets légers pour les rubriques société. La dénonciation du bobo est aujourd'hui une manière facile et faussement audacieuse de stigmatiser l'antiracisme et le combat contre toutes les formes de discrimination. Des causes auxquelles le peuple, le vrai entre guillemets, serait profondément allergique. Les divisions sociales qui structurent notre société ne se réduisent pourtant pas à l'opposition simpliste entre des bobos privilégiés et des classes populaires reformatées, en hommes blancs hétérosexuels, naturellement racistes, sexistes et homophobes habitant le pavillonnaire. Passé à droite, le discours anti-bobo aura peut-être cette vertu de contraindre la gauche à repenser, au-delà de tout raccourci, sa vision des classes populaires et plus largement des classes sociales. Voilà, donc ce texte me semble résumer bien tout ce qui est soulevé par cette question bobo, et notamment, si je peux réinsister là-dessus, voilà, c'est cette manière que ça va avoir d'être utilisé pour créer une sorte de fausse solidarité entre un discours conservateur et des classes, entre guillemets, populaires. Et c'est vrai que, par exemple, des affaires récentes comme l'affaire Clément Méric, qui a suscité quelques polémiques dans nos rangs, je vais pas revenir longtemps dessus, mais je pense qu'un texte comme celui de Pierre Carl, si vous l'avez lu, indique cette forme de pollution du discours anti-bobo, du discours critique des bobos, qui va associer clairement tout ce qui peut se faire de un peu radical, un peu alternatif, à en fait une bourgeoisie bohème, voilà, un peu naïve, un peu etc. Et donc il faut pas qu'on se laisse polluer, nous, par ces catégories de pensée, parce qu'elles nous desservent, et en plus elles sont fausses, tout simplement. Voilà, donc je pense qu'il nous reste 5 minutes, on va se remettre un titre.
Et... Est-ce qu'on n'écouterait pas Allô Maman Bobo?
On aurait pu, mais je l'ai pas sur moi.
Ah, c'est dommage, Eric.
On va se mettre, je pense... Ah bah tiens, on va se mettre James Brown. James Brown qu'on a écouté la semaine dernière, mais que la personne à la technique la semaine dernière...
Voilà. Et voilà.
Avait je pense que c'était volontaire, avait coupé la superbe introduction du titre.
D'accord, bon.
Non, et du
allez,
coup,
balance ta chanson, va.
Et du coup, voilà, on va remettre James Brown parce que j'adore l'introduction notamment.
Get yourself together and drive that funky soul.
c'était donc James Brown avec l'intro en entier, pas coupé.
Sauf que là, on a coupé la fin.
Voilà. Donc, on va vous dire au revoir à la semaine prochaine et vous laisser en bonne compagnie puisque l'émission La Causerie commence dans quelques minutes. Bonne soirée.